Rubrique après les élections européennes. Les élections européennes et la montée électorale du Front National. Entre guillemets, tsunami, séisme, tremblement de terre. Les quotidiens ont rivalisé pour le titre le plus catastrophiste au lendemain de ces élections européennes. Pour la première fois, le Front National est arrivé en tête dans une consultation électorale. Sa progression électorale par rapport aux précédentes européennes est incontestable. 1 091 681 voix, soit 6,34% en 2009, contre 4 711 339 voix, soit 24,85% en 2014. Si tsunami il y a cependant, le moins qu'on puisse dire, c'est que contrairement au phénomène naturel qui prend par surprise, le phénomène politique était largement annoncé. À la présidentielle de 2012, Marine Le Pen avait recueilli 6 421 426 voix, entre parenthèses 17,90%. Et en remontant jusqu'à l'élection présidentielle de 2002, où le socialiste Jospin avait été disqualifié dès le premier tour en se retrouvant derrière Chirac et Le Pen, ce dernier avait recueilli au premier tour 4 804 713 voix, entre parenthèses 16,86%. Et pour remonter plus loin dans les présidentielles, Le Pen père avait comptabilisé sur son nom 4 376 742 voix, entre parenthèses 14,38% en 1988 et 4 571 138 suffrages, entre parenthèses 15% en 1995. Bien sûr, ce n'était pas le même type d'élection et les comparaisons entre ces différents scrutins sont faussées à la fois par les différences dans les participations et par les conséquences institutionnelles des élections. Le fait est que la croissance de l'audience électorale du FN avec ses hauts et ses bas est parallèle à la perte de crédit des grands partis de l'alternance, l'UMP et le PS. En étant écarté des institutions politiques centrales de la bourgeoisie, le Front National a beau jeu de dégager toute responsabilité pour la politique menée. Dans un contexte dominé par l'évolution à droite de l'opinion publique et en l'absence de partis représentant les intérêts politiques de la classe ouvrière, le FN est devenu le réceptacle de tous les mécontentements. La crise et la montée du FN. Cette installation du Front National dans l'électorat depuis au bas mot une vingtaine d'années s'est accélérée avec l'aggravation de la crise depuis 2008 et avec l'intensification de la lutte de classe menée par la bourgeoisie contre les classes populaires. Les politiques d'austérité, c'est-à-dire les économies sur les services publics, sur la protection sociale, sur la santé, sur l'enseignement, ne sont pas une lubie, entre guillemets, sociale libérale du gouvernement. C'est une exigence du capital financier. Le personnel politique au gouvernement n'a pas d'échappatoire. Sarkozy lui-même a payé, par sa non-réélection, la politique qu'il a menée pour le compte du grand capital. Les conséquences des exigences de la bourgeoisie sont autrement plus graves pour le PS. Ce sont précisément les catégories sociales qui fournissent le gros de son électorat qui sont les principales victimes des coups portés aux classes populaires pour le compte du grand capital. La rapidité de la dégringolade de Hollande dans les sondages est confirmée en grandeur nature par les élections municipales puis européennes. Ce n'est certes pas la première fois que les dirigeants du PS perdent tout crédit en exécutant la politique que la bourgeoisie exige d'eux. Dans un tout autre contexte, marqué par la guerre d'Algérie, le parti de feu Guy Mollet en avait donné une illustration. La grande bourgeoisie n'a que faire des intérêts électoraux de son personnel politique et encore moins de ceux de son personnel de gauche. Mais ce qui peut lui poser problème, c'est que la déconsidération accélérée de la gauche n'entraîne pas une remontée symétrique de l'UMP, embourbée dans les scandales et déchirée par les guerres de chefs. C'est l'ensemble du système de l'alternance droite-gauche qui fait ronronner la Ve République depuis un demi-siècle qui est en train de s'effondrer. Est-ce l'amorce d'une crise politique ? Peut-être. Encore faut-il en mesurer la portée et les problèmes qu'elle est susceptible de poser à la bourgeoisie. Contrairement à la présidentielle et aux législatives, les élections européennes n'ont aucune conséquence institutionnelle en France. Marine Le Pen a beau réclamer la dissolution de l'Assemblée nationale, Hollande n'a aucune raison de lui faire ce cadeau. Le système politique de la démocratie bourgeoise légitime le pouvoir de ceux que les élections ont désignés, entre guillemets, pour opprimer le peuple pendant les 5 ans de leur mandature, même s'ils ont perdu tout crédit pour avoir fait l'inverse de ce qu'ils ont promis à leurs électeurs. Dans le bref discours de Hollande au lendemain des élections européennes, les seules choses à retenir sont, d'une part, que le gouvernement socialiste ne cédera pas la place, et d'autre part, qu'il n'abandonnera pas la politique anti-ouvrière qu'il mène. De façon significative, la droite parlementaire s'est bien gardée d'emboucher les trompettes de la dissolution à la suite de Marine Le Pen. Ni les uns ni les autres ne veulent prendre le risque d'une crise politique grave. Sauf si sa politique se heurte à des mouvements sociaux qu'il sera incapable de contrôler, le PS est assez responsable vis-à-vis de la bourgeoisie pour aller jusqu'au bout du sale boulot, quitte à perdre le peu d'influence électorale qui lui reste, voire à se décomposer. La bourgeoisie préfère faire l'économie d'une crise politique. Si elle survient cependant, elle ne sera pas nécessairement insupportable. La crise politique longue en Belgique et celle à répétition en Italie n'ont pas affecté outre mesure les affaires de la bourgeoisie. À plus forte raison, elles n'ont pas menacé ses intérêts fondamentaux. La montée du FN ne menace que le système d'alternance gauche-droite, pas les institutions. La substitution d'une alternance à 3 à l'alternance à 2 des décennies passées ne pose de problème qu'au personnel politique en place, dont une partie se reconvertira aisément, pas à la bourgeoisie. Quelle pourrait être la configuration du système qui se dessine, si tant est que le FN continue sa progression électorale dans les élections à conséquences institutionnelles, entre parenthèses, législatives, présidentielles? Passera-t-elle par la décomposition de l'UMP, avec des pans entiers qui rejoignent le FN sous une forme ou sous une autre? Serait-ce que le PS se déconsidérera au point que s'effectue, en plus durable, ce qui s'est produit lors de l'élection présidentielle de 2002, c'est-à-dire qu'une sorte d'alternance se maintienne, mais en opposant seulement deux grandes formations de droite? Il n'est pas utile de se livrer à ce genre de spéculation. Le FN gouvernera, comme l'UMP et le PS, dans l'intérêt de la bourgeoisie. La responsabilité de la gauche. La responsabilité dans cette évolution de la gauche, qu'on ne peut même plus qualifier de, entre guillemets, réformiste, est écrasante. Celle du PS est évidente. Chaque fois qu'il accède au pouvoir gouvernemental, il exécute servilement la politique exigée par la grande bourgeoisie. Mais avec la crise, la bourgeoisie lui demande plus que de gérer la société d'exploitation. Elle exige que les exploités soient poussés vers la pauvreté afin de préserver et d'augmenter ses profits. La responsabilité du PCF est plus grande encore dans la mesure où c'est lui qui a eu suffisamment d'influence dans la classe ouvrière pour lui imposer l'idée qu'elle n'aurait de salut qu'à travers un gouvernement de gauche. Au lendemain des élections européennes, l'humanité se lamentait sur, entre guillemets, la montée des périls à gauche après les élections. Quant à Mélenchon, il larmoyait en direct à la télévision sur le sort de sa, entre guillemets, belle patrie qui n'avait pas su résister à la montée de l'extrême droite. Mais l'un et l'autre ont évité de se poser la question : pourquoi ce sont précisément dans les villes ouvrières, dans les quartiers populaires que le FN a le plus progressé? Car le fait marquant de ces élections est justement que l'électorat populaire qui votait traditionnellement à gauche a tenu à marquer son opposition à l'égard du gouvernement par l'abstention surtout, mais pour certains, par le vote FN. Le bilan politique du PCF est désastreux. Toute politique de lutte de classe abandonnée. sa direction a mis à la disposition du PS son influence dans la classe ouvrière. Les gouvernements socialistes ont mené leur politique avec la complicité de la direction du PCF. Que celui-ci ait été récompensé par quelques postes ministériels ou pas. Les appareils syndicaux se sont mis au diapason et ont désarmé, démoralisé un nombre croissant de militants ouvriers. Le PS, du temps de Mitterrand, a commencé par plumer le PC et l'a réduit en force d'appoint. Le PS sous Hollande l'entraîne dans la déconsidération qui le frappe, quand bien même le PCF se démarque du gouvernement socialiste un peu plus que sous Mitterrand ou Jospin. Cela fait très longtemps que, malgré sa base ouvrière et son étiquette communiste, le PCF ne représente plus une perspective de classe pour les travailleurs et qu'il incarne la même politique d'intégration dans la société bourgeoise que le PS. Mais en associant son destin politique à celui du PS, il est devenu incapable même de canaliser le mécontentement du monde du travail contre le gouvernement socialiste. Le front de gauche, loin de profiter électoralement de l'effondrement du PS, maintient à peine ses résultats. La voie était ouverte pour que le FN puisse apparaître comme le seul réceptacle de tous les mécontentements. À l'illusion dans les classes populaires à l'égard de la gauche gouvernementale a succédé l'illusion envers le FN, entre guillemets, ceux-là, on ne les a pas encore essayés. Cette illusion menace de conséquences plus graves encore pour les travailleurs que l'illusion en la gauche. Car même si le FN en reste à l'image d'un grand parti d'extrême droite que véhicule Marine Le Pen, il charrie le chauvinisme, la xénophobie, le racisme, le protectionnisme, l'exigence d'un gouvernement autoritaire. Il véhicule tous les préjugés qui divisent les travailleurs, qui opposent ceux qui ont du travail et les chômeurs, dénoncés comme des « entre guillemets assistés », travailleurs du privé et travailleurs du public, traités de fonctionnaires, travailleurs en fonction de leur origine ou de leur nationalité. Nombre d'hommes politiques de la droite parlementaire, voire de la gauche, colportent déjà ces préjugés. Mais un parti d'extrême droite fort les véhicule avec une toute autre virulence. Indépendamment même des options politiques de la direction du FN, son influence croissante menace de faire naître dans son sillage des individus ou des groupes qui ne se contenteront pas de discours contre les étrangers, les Roms, les chômeurs, etc., mais qui auront envie de passer à l'acte. Avec le Parti socialiste flanqué du PCF, la bourgeoisie dispose depuis longtemps d'un instrument politique utile pour anesthésier la classe ouvrière. Avec le Front national, elle dispose d'une force politique qui aspire à représenter ses intérêts avec des méthodes plus autoritaires et une orientation réactionnaire. Fera-t-elle le choix de l'associer davantage au pouvoir et de la financer ? Cela dépendra en dernier ressort de la crise et des réactions sociales qu'elle suscitera. Comment faire face ? La progression du Front national est pour le moment électorale. Mais il faut que tous ceux qui, dans la classe ouvrière, sont choqués par la montée du FN et plus encore par le fait qu'ils puissent trouver un écho grandissant dans les classes populaires, retrouvent confiance en la classe ouvrière et dans la lutte de classe. La question de savoir si les votes pour le FN dans les classes populaires sont des votes protestataires ou des votes d'adhésion est un problème militant. Si le FN ne trouve sur son chemin que des lamentations, des appels au sentiment républicain ou des combinaisons de politiciens, le nombre de ceux qui, dans les classes populaires, ont voté pour le FN pour exprimer leur écœurement devant, entre guillemets, les autres, ira croissant. Et pire, ils seront de plus en plus embrigadés derrière une cause qui est aux antipodes de leurs intérêts de classe. Le combat pour empêcher la résistible ascension du FN commence par redonner à la classe ouvrière confiance en elle-même, dans la légitimité de ses exigences de classe contre la bourgeoisie. Ce combat donnera sa pleine efficacité lorsque les travailleurs prendront conscience de leurs propres forces et par là même abandonneront l'illusion en un sauveur suprême. Encore faut-il que ce choix politique, le choix d'une politique de lutte de classe, soit défendu dans la classe ouvrière. Cela doit être la tâche primordiale de tous ceux qui se placent dans le « camp ». camp des travailleurs et au-delà, de tous ceux qui veulent s'opposer réellement à la montée du Front National et s'en donner les moyens. Georges Caldi.